Christine, je ne vais pas te présenter, à moins que tu veux que je le fasse. Je pense que tout le monde te connaît. Je peux quand même juste rappeler qu'effectivement, tu as fondé MCTM. Tu es anthropologue et géographe, ce qui est intéressant aussi. Donc, directrice de recherche au CNRS, à l'UMR Passage de l'Université de Bordeaux. Et tu as écrit de nombreux ouvrages et articles sur la Martinique, diaspora noire des Amériques et mémoire d'esclavage aux Antilles. Alors, Sarafila Bakabadio, qui va également discuter donc les deux premières communications et les autres d'ailleurs, hein, les six dans la journée. Donc, tu es historienne, maîtresse de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et membre du laboratoire Agora. Tu t'intéresses à l'histoire sociale et culturelle des États-Unis et tu travailles en particulier sur les Africains-Américains. Tu as publié ta thèse en 2016, elle s'intitule African My Mind, une histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis. Elle a paru aux Indes savantes. Voilà. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être par des commentaires un petit peu généraux. Moi, en fait, je donnerai tout à l'heure un petit peu les. Je vous dirai en quoi ce qui a été dit par Aurélia et Nicolas fait écho à des situations. De l'Afrique urbaine que je connais mieux pour l'époque coloniale, en particulier au Mozambique. Il y a beaucoup de points communs, en particulier tout ce qui concerne les stratégies d'élévation, dont a parlé Nicolas, également en fait les ambiguïtés, l'institutionnalisation de ces stratégies d'affirmation en fait d'acteurs stigmatisés et les débats que ça a pu susciter en fait à l'époque et pas seulement en fait par des intellectuels, mais notamment par des intellectuels. Donc voilà, je vais peut-être m'effacer pour laisser la place aux commentaires de Christine et de Sarah. Qui veut commencer? Enfin, commentaires et questions d'ailleurs.
Sarah, on te laisse
Sarah?
aller. Tu veux? Mais
Bonjour.
merci. Vous m'entendez correctement?
Oui.
Oui. D'accord. Je ne suis pas obligée d'hurler et de me faire profiter mes voisins. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. J'aurais aimé vous voir en présentiel, comme on dit, mais bon, on va croiser les doigts pour la prochaine fois. Merci beaucoup parce que le thème m'intéresse beaucoup pour des recherches personnelles puisque je travaille sur la beauté noire et puis parce que j'ai aussi un projet sur la danse puisque c'était ma première vie et donc du coup il y a des choses en fait qui ont été dites en fait qui recoupent tout ça et qui m'intéressent beaucoup. Alors ça va peut-être être un peu en vrac ce que je vais dire, vous m'en excuserez. Et finalement, en vous écoutant tous les deux, je trouvais que ça se répondait bien, en fait. C'était assez complémentaire à la fois parce que finalement, le point de départ qu'utilisent d'un côté les Africains-Américains et de l'autre côté les Afro-Brésiliens, en fait, ne sont pas finalement les mêmes. Alors effectivement, de facto, historiquement parlant, et puis, en termes de stratégie. Et finalement, je trouvais que voilà, il y avait déjà un dialogue entre les deux. Je m'explique. De Nicolas, dans ta communication, en fait, bon terrain que je connais le mieux, effectivement, la performance est effectivement très liée à la politique de respectabilité et donc un débat infini et continu parmi les Africains-Américains, à savoir dans quelle mesure se conformer au code dominant pour exister dans la société américaine. Et que finalement, à cette époque-là, on est sur trois modes. D'abord sur l'idée d'une capacité des corps noirs à se conformer aux standards. Et alors, tu as pris l'exemple de Booker T. Washington, qui était effectivement dans cette optique-là. Du coup, on pourra peut-être évoquer après, en fait, les débats qu'il y avait avec d'autres leaders africains-américains qui considéraient que ce n'était pas forcément la voie à suivre, même si en termes de discussion sur l'élévation de la race, qui était effectivement l'objectif ou la manière de formuler les choses à l'époque, c'était un peu la perspective dominante. Mais il y a une idée de comment transformer les corps noirs pour qu'ils soient en capacité ou démontrer la capacité de ces corps à se conformer aux standards dominants. Qu'ils soient esthétiques, alors je travaillais aussi sur Madame C.J. Walker, qui effectivement est dans une défense d'une beauté noire et d'une capacité des femmes noires à être belles, mais ne transforme pas totalement les standards, en fait, les adapte. Et on est toujours dans une question d'adaptation, en fait, de standards à la minorité. Ce qui suppose aussi, en fait, l'idée, c'est véritablement un glissement entre entre ce que Sylvia Winters appelle les presque humains vers une catégorie qui serait totalement humaine et qui pourrait répliquer en fait les codes de cette modernité américaine. Et ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, alors que je connais, mais voilà, il y a des parties que j'ai laissées de côté, puisque moi je suis plutôt sur le Black Power et puis la période contemporaine, c'est à quel point il faut la monstration et véritablement en fait le processus de qui soutient la performance des corps noirs à cette époque-là, montrer qu'on est un athlète, montrer qu'on est un corps sain, montrer qu'on a une capacité de réflexion. Alors, pas trop pour Booker T. Washington, pas trop, puisque c'est quand même des métiers censés être utiles à la société. On n'est pas dans la construction d'élite comme le voulait Dubois. Mais qu'effectivement, on est dans une démonstration de la capacité à se conformer, la capacité à entrer dans un cadre. Et que cette capacité est censée permettre d'acquérir des droits et une parole. Du coup, ça me posait aussi une question dans la mesure où parmi les générations précédentes, on a par exemple Frederick Douglass, qui était donc un esclave devenu abolitionniste. En fait, lui, il a joué sur les deux tableaux. Il a travaillé sur le corps à travers en fait, des photographies, beaucoup. Il s'est beaucoup fait photographier au cours de sa vie. Et donc avoir des postures de respectabilité à la fois dans les vêtements, dans la posture comme les portraits qu'on faisait à l'époque, dans la coiffure aussi. Et dans le même temps, en fait, il produisait aussi des écrits. Et en fait, il y a aussi toujours ce jeu, et je suis d'accord avec toi, il y a un jeu entre le dire et le faire, le dire et le montrer, qui est toujours très important et qui est finalement une arcane importante pour l'Afrique. Jusqu'à maintenant, je pense. Donc, il y a toujours ça. L'autre chose que je me disais, c'était que quand Washington dit ça, il y a toujours l'idée en arrière-plan, et je pense qu'il n'en a pas totalement conscience, mais c'est aussi l'époque, que la corporalité noire est quand même un matériau brut et qu'il faut le transformer et que ça ne peut pas exister pour soi-même et que ça ne peut pas exister en l'état et qu'il doit y avoir un façonnage d'une manière ou d'une autre pour atteindre en fait le statut d'humain plein et voire de citoyen. Si je ne suis pas claire, vous me direz. Et Washington le dit parfois comme ça, et des personnages comme Madame C.G. Walker aussi le dit comme ça. Vous ne pouvez pas garder votre teint de telle manière, vous ne pouvez pas garder vos cheveux à l'état naturel parce que ça vous renvoie toujours au statut d'esclave. Et donc ce corps naturel, ce en fait, renvoie toujours à un statut de subalterne et de subordonné. Et du coup, il y a toujours une question de discipline du corps qui et donc la performance dans le cadre de Washington part de la discipline, de la contrainte du corps et pas de la libération. Et ça m'intéressait aussi d'entendre avec beaucoup un aspect très néophyte parce que je ne connais absolument rien au Brésil, le travail d'Aurélia parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que les responsables d'école de samba, en fait, ont l'air de, comme tu disais, en fait, ce sont des faiseurs de normes. En fait, ils renversent le système pour réussir à trouver des interstices et des espaces où ils peuvent créer visiblement les choses comme ils l'entendent, tout en étant capables en fait de jouer des représentations des corps noirs et d'un vécu noir dans la société brésilienne. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est pas une reconnaissance du regard blanc. Il y avait un sociologue africain-américain qui appelait ça le white gazing, donc le regard en fait du dominant et comment on jauge son attitude par rapport à ça. Et visiblement, les uns et les autres en étaient totalement conscients, mais ont décidé de créer la performance comme un espace, oui, d'interstice, quoi. Comment cet interstice peut être un espace de création pour être ce qu'on veut, en fait. Contrairement à Washington, qui n'avait pas forcément envie d'être ce qu'il voulait ou ce que les Africains ou Américains voulaient, mais ce qui était nécessaire pour atteindre une certaine citoyenneté. Et du coup, je trouvais ça aussi très, très intéressant aussi l'idée d'une égalité par la différenciation, c'est-à-dire, et donc pas la conformité comme les Africains-Américains le proposaient, quand tu parlais de Portela qui agissait dans sa société, donc en fait une certaine prise sur la société par les types de performances qu'il proposait, et non pas comme quelqu'un en marge. Alors que pour le coup, aux États-Unis, en fait, Washington part quand même de l'idée qu'ils sont une marge et que cette marge doit s'insérer dans la trame existante. Alors que ce que j'entends du Brésil, c'est comment transformer la trame de l'intérieur en la faisant craquer par petits bouts dans un espace qui est symbolique, le carnaval et la samba. Et donc, du coup, je trouvais que ça se répondait plutôt bien dans les points de départ d'où parlaient et d'où représentaient les acteurs dont vous avez parlé. Et finalement, c'est un débat qui est toujours actuel. C'est pour ça que ça m'interroge aussi, parce que j'écris quelque chose sur George Floyd en ce moment. Et du coup, je me disais, on en est toujours là. En fait, ce sont des questions qu'on se pose toujours, que ce soit des mouvements aux États-Unis, peut-être certainement au Brésil, en France ou en Angleterre, de la conformité et dans quelle mesure la reconnaissance et le travail et la relation avec ce white gazing, en fait, est une arcane d'un combat contre la discrimination où la distanciation et le retournement du stigmate comme manière d'être et manière de se comporter. Voilà, après j'aurais peut-être d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Merci en tout cas.
Je pense que Nicolas et Aurélia peuvent déjà réagir à ton commentaire, à ton double commentaire.
D'abord, merci beaucoup, Sarah, pour cette remarque très, très pertinente, qui soulève plein de questions difficiles en fait et qui va être clairement impossible de traiter, même un peu en profondeur là tout de suite. Mais je crois que je vais débuter par là. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à penser en fait les stratégies corporelle d'élévation de soi-même, d'élévation communautaire, dans la mesure où on pense ces stratégies de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle aux États-Unis, à travers un certain nombre de concepts qui n'étaient pas à l'époque connus. En fait, je pense, c'est ce que m'a amené à penser, en tout cas ma recherche sur ces questions, on pense selon les cadres qui ont été imposés, en fait, grâce à la révolution du Black Power. Et je pense que le Black Power représente dans notre modernité une révolution culturelle et politique dont on n'a pas encore véritablement pris toute la mesure. Et il est extrêmement difficile de ce point de vue de penser quelqu'un comme Washington, et même d'une certaine façon des gens comme Dubois ou Douglas, qui vivaient avant cette révolution. Et je pense que cette révolution tient à quelque chose de central et qui est liée aussi à l'évolution des sciences humaines. On dit souvent que les sciences humaines ne progressent pas, et qu'il n'y a pas de progrès en sciences, etc. Moi, je pense que c'est quand même largement faux. Et cette révolution, c'est, je pense, la pensée structuraliste, c'est-à-dire la façon de penser la société comme structure, quelque chose qui était impossible à penser comme tel dans les années 1890, par exemple. Et cette façon de penser amène comment dire, à critiquer très fermement, comme inacceptable, toutes les positions qui consistent à dire que pour lutter contre le racisme, il faut d'abord éduquer le regard des Blancs, changer la psychologie des Blancs. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer d'abord aux inégalités structurelles de la société, il faudrait changer les modes de représentation du groupe dominant, ce qui fait peser sur le groupe dominé, sur le groupe minoritaire, eh bien, la charge de la transformation sociale, comme s'ils étaient les responsables de leur propre oppression. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait incompréhensible pour nous aujourd'hui, parce que dans le contexte dans lequel pensait Dubois, dans lequel pensait Washington, est un contexte qui proclamait la supériorité des races dites blanches et l'infériorité des races dites noires comme allant de soi. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes noires participent
Nicolas,
j'ai dit pour Washington, pour Dubois, pour Marcus Garvey aussi. Il s'agit de s'élever, c'est-à-dire d'améliorer, de perfectionner la communauté africaine-américaine, précisément pour modifier les normes dominantes. Et ça, c'est un discours qui est largement accepté. Et donc, ils cherchent des stratégies pour perfectionner ce qu'on appelle la race noire. Donc, c'est un perfectionnement physique, donc corporel, mais aussi un perfectionnement intellectuel et un perfectionnement moral. Et cette stratégie est pour nous incompréhensible parce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui que certaines populations doivent faire la preuve de leur humanité pour se voir accorder des droits égaux. Et les stratégies dans ce cadre, les stratégies corporelles d'élévation de soi, eh bien, participent de cette idée. Il faut faire la preuve de son humanité pour se voir accorder les droits égaux, d'où l'importance du corps. Parce que si les Africains-Américains sont stigmatisés, sont racisés, c'est à cause de l'apparence de leur corps. Et c'est pour ça que le corps est l'enjeu premier, en tout cas c'est ce que je défends, l'enjeu premier de leur lutte de libération. Et c'est pour ça que, voilà, Madame C.J. Walker, elle n'est pas du tout quelqu'un qui est marginal dans cette histoire, elle est centrale, puisqu'elle s'attaque aux racines corporelles de l'oppression. Donc, et je terminerai rapidement en disant que, il me semble quand même que vouloir intégrer les schémas normatifs dominants, ça n'est pas forcément simplement comment dire, se soumettre à une contrainte ou à une discipline qui serait l'inverse de la libération. Dans la mesure où, pour un noir, pour une noire, pouvoir aussi incarner les normes dominantes, c'est de fait révolutionner le cadre normatif dominant. La meilleure preuve, je pense quand même, c'est la présence de la famille Obama, c'est-à-dire la première famille noire à la Maison-Blanche. Voir une famille noire dans la Maison-Blanche, c'est d'une certaine façon se conformer aux normes dominantes de respectabilité. Et les Obama sont peut-être, avant toute autre famille noire, l'incarnation de la respectabilité noire. Enfin, c'est 8 ans au pouvoir et 8 ans sans aucun scandale. Quand on compare la Maison-Blanche Obama avec la Maison-Blanche Trump, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que l'imperfection, c'est évidemment le privilège des dominants. Trump peut être imparfait et il l'est largement. Mais les Obama, en incarnant les normes dominantes, me semble-t-il, ont aussi transformé ces normes dominantes, le cadre normatif dominant. Alors, ça ne veut pas dire que Barack Obama est un révolutionnaire, hein, pas du tout. Mais néanmoins, le jeu sur les normes est de ce point de vue plus complexe qu'un jeu vous voyez, jeu binaire, contrainte, discipline. On est très influencé aussi par Michel Foucault, hein, sur la discipline des corps, qui est très négatif, mais moi, j'essaie de montrer dans mon livre que la discipline des corps peut être aussi un moyen de libération pour des populations qui sont assujetties, en fait. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a aussi un peu de difficulté à comprendre. Et dernière chose, il me semble que ce que je dis de Booker T. Washington est valable aussi pour les grands leaders du Black Power. Quelqu'un comme Malcolm X, la vie même de Malcolm X, c'est une vie d'élévation de soi-même. C'est quelqu'un qui raconte dans son autobiographie le passage de la perdition à la rédemption, la conversion à l'islam, entre autres choses, la conversion au monde intellectuel, parce que Malcolm X devient un intellectuel alors qu'il était un petit délinquant, il était un prisonnier, il a été condamné, etc. C'est une vie d'élévation de soi-même. Et la Nation of Islam, le Black Panther Party et toutes les grandes organisations du Black Power qui critiquent l'élévation de la race ont aussi pratiqué une forme d'élévation de soi-même qui est, me semble-t-il, typique de la communauté africaine-américaine, précisément parce que contrairement au Brésil, et ça peut-être Aurélia pourra en parler, parce que contrairement au Brésil, il n'existe pas historiquement aux États-Unis d'entre-deux entre noir et blanc. Il est extrêmement difficile de valoriser une identité métisse jusqu'à récemment aux États-Unis. Donc, les Africains-Américains, me semble-t-il, n'ont pas les mêmes possibilités d'action politique et symbolique que peuvent avoir par exemple les Afro-Brésiliens, qui peuvent s'immiscer entre les catégories noires et blanches, par exemple. Aux États-Unis, c'est une dichotomie binaire héritée de l'esclavage, en tout cas héritée de l'esclavage, du type d'esclavage très particulier qui s'est mis en place dans l'Amérique du Nord britannique, puis aux États-Unis.
Aurélien? Ah, Sarah, peut-être on va laisser parler Aurélien pour pas qu'il y ait que ce soit une polarisation sur les États-Unis.
Ouais, ok. Alors, je suis très très d'accord avec ce que vient de dire Nicolas sur la difficulté d'abord à comprendre ces stratégies après le Black Power, après les lectures militantes qu'on peut en faire depuis ces 30 dernières années, après les sciences sociales, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai eu cette difficulté et ce que ma communication en fait portait plutôt sur la révélation que j'ai eue en me replongeant dans cette histoire de la samba à partir d'une histoire sociale très classique, c'est-à-dire l'histoire du quartier, l'histoire des populations, l'histoire des... Enfin, je suis repartie de vraiment d'une observation de terrain, tant qu'en, enfin, dans la mesure où elle est possible, pour essayer de resituer, disons, ces acteurs dans cette histoire de la samba qui est largement aussi déjà mythifiée, institutionnalisée à travers une bibliographie qui est... Voilà, qui reprend plutôt l'histoire des leaders, des grands personnages, etc. Et donc, bon, je partage en grande partie cette lecture que Nicolas vient de faire pour les États-Unis, et je voudrais rebondir sur deux choses que tu as notées, Sarah. La première, c'est la notion d'interstice. Ou peut-être c'est aussi ce que Nicolas disait sur le métissage. C'est à la fois beaucoup plus que ça et à la fois même pas ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un interstice parce que le carnaval de Rio est devenu vraiment un emblème de la culture nationale, de l'identité nationale. C'est quelque chose qui s'exporte. Ça s'est exporté dès 1941 quand Walt Disney est venu assister à une répétition de l'école de Portela, de Paolo de Portela, pour faire son dessin animé avec le perroquet, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, donc, c'est vraiment, au fond, Paolo de Portela qui a redessiné l'identité brésilienne. Donc, d'une certaine manière, ça va plus loin qu'un espace qu'on concède à un moment de l'année, à une identité qui serait donc redéfinie par l'ascendance africaine. Et d'un autre côté, effectivement, et là c'est le grand paradoxe, cette grande place qui est laissée, enfin, qui est faite à l'identité afro-brésilienne dans l'identité nationale, ne renvoie pas du tout un changement de structure. C'est-à-dire que si le Brésil garde dans une grande mesure les caractéristiques racistes, que ce soit des années 30 à aujourd'hui, dans ses structures socio-économiques, dans les rapports sociaux, dans les préjugés racistes qui continuent à fonctionner très largement. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on est dans un paradoxe. Et c'est le reproche qui est fait justement, cette lecture, nouvelle lecture de l'avènement de la samba ou du carnaval de samba qui est faite, c'est-à-dire en quoi, et peut-être de la même manière comme les Obama, en quoi ça change quelque chose. Voilà, c'est une question. Je pense, voilà.
Christine, à ton tour.
Bon, bah merci pour ces communications. Alors, je suis embêtée parce que j'allais pratiquement, mais en d'autres mots, dire à peu près la même chose que Sarah par rapport à cette notion de dignité qui nous préoccupe aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que c'est cette dignité? Alors, je pense qu'on aura peut-être des définitions plus précises avec les communications de cet après-midi avec Norman Adjari et puis... avec aussi Jérôme Gaucher, parce que je crois qu'on a quelques réponses côté Caraïbes et côté Jamaïcain, avec donc cette dignité, est-ce que c'est, comme tu l'as très très bien formulé, Sarah, est-ce que c'est se hisser à un rang qui nous rend, enfin rend le corps noir normativement acceptable au vu des critères de la... humanité blanche, et est-ce que le corps doit se conformer, quel effort doit faire ce corps pour être accepté en fonction de cette normativité hégémonique et n'ayons pas peur du mot, de la suprématie blanche. Alors je pense que t'as choisi un exemple quand même, tu t'es attaqué à l'exemple le plus sensible par rapport à ça, qui est Washington, Booker Washington, qui a été extrêmement contesté parce que trop en phase avec une sorte d'obéissance, une obéissance à la norme. Ce que lui a reproché Du Bois, c'est de ne pas être assez sur le front de la revendication de l'égalité des droits civiques, etc. Donc, c'est vrai que c'était un terrain où il était difficile d'aborder la dignité, la conquête d'une dignité autrement que par la conformité à la norme. Et j'ai retenu une phrase, un petit passage de la communication d'Aurélia qui parle du mystère sans bas et est-ce que c'est subversif ou bien jusqu'où ça, jusqu'à quel point c'est capable de changer le système normatif. Et à ce propos, je dirais presque qu'il faudrait renverser l'anthropophagie. L'anthropophagie, je ne la verrais pas, moi, comme étant une anthropophagie de la modernité, mais plutôt une anthropophagie des Blancs qui arrive, quoi qu'il en soit, à neutraliser le potentiel subversif de certaines pratiques. Et c'est là que, toujours pour revenir à la notion de dignité, que moi, depuis les recherches qui me sont familières, je verrais plutôt cette dignité comme étant la... Alors, je pense à des écrits d'Aimé Césaire, etc., cette confrontation à... d'avoir des pratiques, des discours qui confrontent le groupe blanc, la caste blanche, comme on l'a appelé longtemps aux Antilles françaises, ce monde blanc qui définit les critères de l'humanité, de la dignité, de la confronter à justement son absence de dignité et cette suppression de tous les chemins vers lesquels mène la dignité redéfinie au prisme de cette expérience qui a été dépourvue de l'accès à une dignité qui n'est pas la même que celle que définit la modernité blanche, puisqu'elle est profondément une pratique humaine de l'inhumain. Donc, alors on a un modèle dans la Caraïbe qui est extrêmement intéressant, qui est le modèle de Peter Wilson, qui parlait de normes de respectabilité et de normes de réputation. La respectabilité, elle était associée au monde blanc, au pouvoir colonial, à l'autorité coloniale, et c'était cette respectabilité qu'il fallait contester. Et la réputation, c'était toutes les pratiques subversives qui n'avaient rien à voir avec ces normes de respectabilité et qui, du coup, amenaient des pratiques qui n'était pas celle de la que l'on a un petit peu vu décrite, qui serait de hisser ce corps noir à l'acceptabilité de sa similarité, de sa possibilité d'être conforme aux normes blanches. Et la réputation, c'est quelque chose qui est du contre, une contre-culture, j'ai envie de dire une contre-culture de la dignité normative blanche. Et là, peut-être que dans la samba, on le voit un petit peu apparaître, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est comment elle est récupérée. Elle est récupérée pour former une identité nationale qui ne résoudra pas, comme tu l'as très bien dit, Aurélia, qui ne résoudra pas le fondement des problèmes que sont ceux de la discrimination et de la construction du corps noir, comme toujours, à part, malgré cette récupération qui est une récupération de l'ordre de la cohésion. Hein. On va récupérer ces pratiques apparemment subversives, mais pour les réinjecter dans un système qui se reproduit à l'identique dans ces pratiques discriminatoires. Donc voilà, alors moi, ce que je retiens des deux communications, c'est qu'elles posent la question de qu'est-ce que c'est que cette dignité? Quelle est cette dignité, ces performances corporelles qui nous amènent vers quelle dignité, d'après moi? C'est une dignité que je pense on aura l'occasion cet après-midi d'en parler, une dignité forcément animée par quelque chose de subversif, non récupéré. Et je crois que le modèle le plus caractéristique par rapport à cette façon de se reconstruire digne par rapport à un système oppressif, nous est donné à la Jamaïque. Alors la Jamaïque est totalement paradoxale, par rapport, et je pense, au mouvement un petit peu galvaudé, parce que folklorisé, qui est le mouvement Rastafari, qui inverse totalement les codes, et dans une quête de dignité, des codes corporels. Le port des locks, il faut imaginer, c'est pas l'époque de Bob Marley, c'est le début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, avec ce port des locks qui mettait le corps en danger lui-même et qui était une manière de casser toutes les normes d'apparence de bienséance et de respectabilité de la moralité britannique. Donc voilà, ce que je retiens, c'est cette notion de dignité en termes de valeur en termes de valeur produite plutôt dans ce qu'on a entendu par le système colonial, le pouvoir dominant, etc., et qui nous amène à nous questionner qu'est-ce que la dignité quand elle n'est pas celle de ceux qui ont le monopole de définir l'humanité qu'il avait jusque-là. Et toutes les recherches les plus récentes sont des recherches qui nous amènent à redéfinir cette notion d'humanité tel que la modernité occidentale l'avait conçue jusqu'ici. Voilà.
Alors, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. J'étais un peu pas en porte-à-faux avec toi, Christine, mais j'étais assez sensible à l'effort de Nicolas et Aurélien, et c'est aussi des historiens. Il faut essayer, effectivement, Nicolas a eu raison de revenir hein, sur les moments avant les grandes ruptures des années 60. Moi, je pense aussi aux guerres de libération en Afrique. Hein. Effectivement, c'est important de se replonger aussi dans l'historicité et la plasticité de toutes ces zones interstitielles. Moi, c'est ce que je retrouve complètement dans mes documents sur le Mozambique urbain et colonial, par exemple. Hein. Je pense à un personnage tout à fait intéressant qui s'appelait José Cravirenia, qui est le grand poète national mozambicain, qui a été proche du Frelimo. Il a même été… Le Frelimo, c'est le Front de Libération du Mozambique, hein, qui a fait la guerre aux Portugais à partir des années 60, depuis l'exil. Il était au Frelimo, il a fait de la prison, etc. Mais il était un petit peu comme les personnages dont a parlé Aurélia ou Nicolas aussi, parfois en creux, un peu une sorte d'animateur social très ancré dans un quartier, etc. Donc, et c'était un métis. Hein. Donc là, je pense qu'il y aurait des choses aussi peut-être intéressantes à dire. Et justement, quand on regarde de près ces personnages tiraillés entre une volonté d'élévation qui remonte à loin, il y a les missions aussi, tout ça derrière, et puis une volonté de rupture très forte à certains moments et la difficulté de en fait presque une schizophrénie, je pense qu'on doit nous être sensibles à ça. Parce qu'effectivement, on peut opposer respectabilité et réputation. Moi, c'est un peu ce que je plaidais au départ. Hein. Je disais, en partant en fait d'une sorte d'avertissement de Tanné Laboni, hein, qui disait « dignité, c'est le dignitaire ». Hein, c'est voilà, ça remonte. Donc en fait, il y a une sorte d'éthos de classe, il y a un comportement de classe. Il y a toutes ces formes de notabilité qui, dans tous les systèmes impériaux, d'oppression, etc., sont nécessaires pour faire fonctionner le système. Mais on le voit très bien, et ça, je pense que c'est un plaidoyer aussi pour une exploration. Hein. On le voit très bien dans le parcours individuel, dans les prosopographies qu'on peut lire très finement, justement la difficulté, hein, comme toi tu le proposes finalement, à repérer des frontières bien nettes. Hein. Il me semble que la dignité, c'est polysémique, c'est aussi le fruit d'une conquête. Cette conquête, effectivement, elle correspond à des points de vue, elle correspond à des idéologies aussi. Hein. Mais je crois que Nicolas a eu raison de dire, hein, c'était, je crois que c'était pas un paradoxe, mais tout à fait intéressant de regarder le parcours de ceux qui ont vraiment proposé une rupture. Hein. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple rapidement de Samora Machel, hein, qui a été le premier président mozambicain, chef de guerre du Frelimo. En fait, il a voulu être assimilé, il était de statut indigène, en devenant infirmier. Et il était extrêmement maltraité. Hein. Il était traité comme tous les élèves infirmiers, c'était une formation horrible. Voilà. Et son modèle, c'est Joey Louis. Donc là, ça renvoie au travail de Nicolas. Donc le boxeur africain-américain, champion du monde de boxe entre 37 et 49, hein, et qui était une star en Afrique. Hein. Ça n'a pas été analysé, mais et alors pourquoi en fait c'était un modèle? Parce que c'est ce qu'a dit Nicolas. Hein. C'est la conjonction de la force et de l'adresse, en fait. Hein. Donc, la discipline qui, lui, est saisie positivement, je suis tout à fait d'accord, parce que je travaille un petit peu sur les sportifs africains aussi, c'est vraiment ça. Et alors, mais en même temps, c'était plus suffisant d'avoir comme modèle Joey Lewis ou de faire de la boxe, parce que la boxe, c'est aussi récupérable par le système. Il y avait des boxeurs au Mozambique, en Angola, etc. Et en fait, comme les footballeurs aussi, hein, le cas de Zébio est très connu, étaient récupérés par le système. Saint-Lazare avait besoin de footballeurs noirs quand l'ensemble du monde critiquait le Portugal qui ne décolonisait pas. Il disait, eh bien, le Portugal, c'est une puissance métisse depuis le XVIe siècle. Et regardez, nous avons dans notre équipe nationale des gens comme Zébio, etc. Bon, qui venaient d'un quartier très pauvre de Lourenço-Marquez. Donc, il me semble que, je crois que les deux communications, là, on verra cet après-midi, effectivement, et puis tout de suite, hein, avec Raphaël Gallien et Malik Haral, que ça peut être intéressant, finalement, de travailler ces zones un peu grises, finalement, hein, qui sont pas très connues, et dans lesquelles on peut, justement, peut-être pas proposer en surplomb une définition de la dignité. Moi, il me semble que ça peut être intéressant, justement, de voir les définitions possibles de la dignité en partant peut-être de situations un petit peu diverses. Voilà, donc je n'étais pas en porte-à-faux avec toi, mais disons que j'apportais un éclairage peut-être un petit peu différent.
Juste corriger, Didier, j'ai absolument pas dit que c'était pas intéressant de s'occuper de la samba et de
non, c'est, mais c'était pas ça.
Ça nous renvoie, au fondement de cette journée, des définitions, tu l'as dit, polysémie, de qu'est-ce que c'est cette dignité. Quand il y a un monopole qui est détenu par un groupe pour fonder les valeurs morales, et ça a été très fort au XIXe siècle, je me situe bien au XIXe siècle, que des valeurs accordées à la civilisation, etc., jusqu'où quels sont les moyens de lutte par la. C'est exactement la problématique qui s'est posée aux États-Unis, la conformité. Ou la non-conformité, ou la lutte véritablement de dénonciation, de contestation, c'est ce que ça amène, ces communications, moi, amènent au cœur du problème. Je ne dis surtout pas qu'elles sont, elles sont pas intéressantes, au contraire, elles nous permettent de faire émerger. Et là, je voudrais parler des écrits de Richard Burton, qui sont sur la Caraïbe aussi, sur cette capacité ou incapacité, quels sont les chemins de la véritable émancipation. Et tout le temps, il pose ces problèmes par rapport à toutes les révoltes qu'il y a eu, la fameuse anthropophagie qui est dans l'autre sens, dans ce cas-là, de récupération. Quelles sont les voies d'émancipation? Ça peut être, tu as Aimé Césaire, par exemple, ça peut être ce que tu dis, une monstration de la capacité à être bien plus fort que le colon dans le maniement de sa propre langue. C'était le combat permanent d'Aimé Césaire. Césaire voulait montrer, il se moquait d'ailleurs quand il allait à l'Assemblée nationale, etc., de la pauvreté du vocabulaire des députés. Donc, ça peut aussi, ça nous pose ces questions, c'est ce que je voulais dire. C'est pas, je ne dis pas que c'était pas intéressant, bien loin de là, au contraire. Et que c'était des mauvais exemples, pas du tout.
Alors, oui, Sarah? Et puis peut-être on va donner la parole brièvement à Nicolas et Aurélia pour pouvoir continuer. Voilà, on va donner la parole à Raphaël Gallien et Malika Rahal.
Du coup, je vais faire court. En fait, pour être précise, je suis d'accord avec toi, Nicolas, qu'on ne peut pas appliquer en fait un certain nombre de concepts contemporains et notre manière de penser contemporaine à cette époque-là. C'est juste en fait. Que en fait c'était déjà un débat. En fait, ça rejoint ce que dit Christine, c'est-à-dire que la proposition de Washington est une proposition et qui du coup faisait débat déjà à l'époque avec Dubois, mais pas seulement avec le Dubois, de savoir si c'était vraiment la voie la plus efficace pour atteindre effectivement une égalité. Et il défendait quand même une certaine conformité à. Maintenant, c'est pas un jugement critique de ma part parce que c'est pas ma fonction, mais pour le coup c'est c'est ça en fait qu'on reproduit nous maintenant, à savoir quelles sont les véritables voies pour atteindre sa dignité et débat qu'on a jusqu'à maintenant avec Black Lives Matter. Je suis d'accord avec toi par exemple que les Obama sont un symbole de ça, mais ce que dit Michelle Obama aussi, c'est que c'est dur parce qu'elle a totalement conscience qu'elle doit incarner cette dignité noire comme elle a été représentée au fil de l'histoire et qu'elle ne pouvait pas se rater. Donc c'était plutôt dans cet esprit-là, c'est-à-dire que oui, il y a une rupture. Alors, pour le Black Power, on en discutera à un autre moment, ce serait plus long. Mais de penser malgré tout le corps et la performance comme un matériau à transformer, il y a quelque chose qui est quand même une obligation à penser dans ce débat. Pas forcément, il n'y a pas de réponse, mais il y a une obligation à penser ça parce que la catégorie de race nous place aussi là. Je vais me taire parce que je vais laisser la parole à d'autres.
Bah, si je peux peut-être répondre rapidement, Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Ça, très rapidement, on connaît l'opposition classique entre Dubois et Washington. Ils se sont affrontés, etc. Néanmoins, Dubois, au début de sa vie intellectuelle et de sa vie politique, est très proche des positions de Booker T. Washington. En fait, dans les années 1890, Dubois et Washington partagent les mêmes références politiques et les mêmes objectifs. Disons que Dubois appartient à une génération plus jeune et il vivra plus longtemps. Il fera le parcours intellectuel qui va le mener au panafricanisme, à la revendication même du nationalisme noir, ce que ne pourra pas faire Booker T. Washington. Donc, bon, voilà, Dubois et Booker T. Washington ne se sont pas toujours opposés et Dubois lui-même plaide pour une élévation de la race noire selon des critères noirs, hein. Bon, c'est-à-dire apporter au monde une contribution noire à la civilisation humaine. Ça, c'est vraiment ce qui le caractérise au début du XXe siècle. Ce que je veux dire, enfin, je voudrais simplement insister sur deux points très rapidement. Je pense, enfin, en tout cas, ma recherche m'a amené à insister sur le fait que les performances de dignité, c'est-à-dire des pratiques qui font partie d'une lutte symbolique, d'une lutte pour la reconnaissance, n'ont jamais, dans l'histoire africaine-américaine, n'ont jamais été déconnectées d'une lutte pour la redistribution. Autrement dit, on ne peut pas faire comme si se battre pour sa dignité était étranger à se battre pour ses conditions de vie matérielles. Et la raison en est très simple. Pour pouvoir prouver sa dignité dans une société, il faut en avoir les moyens matériels. Par exemple, il faut pouvoir aller à l'école. Il faut pouvoir avoir accès aux services publics. Sinon, on ne peut pas prouver sa dignité. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas simplement dire que la lutte pour la reconnaissance est déconnectée de la lutte pour la redistribution. En tout cas, dans l'histoire africaine-américaine, ça n'a jamais été le cas. Booker T. Washington n'était pas naïf à ce point. Les Noirs américains ne croyaient pas qu'en changeant les idées, on allait changer la réalité. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui, je pense, il faut insister. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ces luttes corporelles pour la dignité, n'ont pas d'abord, en tout cas dans le contexte états-unien, n'ont pas d'abord pour objectif de persuader les Blancs. L'objectif premier, il n'est pas externe à la communauté. L'objectif premier, il est interne à la communauté. Et c'est ce que j'analyse dans mon livre, c'est-à-dire la construction de la confiance en soi. C'est-à-dire que ces pratiques corporelles de dignité visent à la construction de la confiance en soi, ce que Toni Morrison appelle le self-regard, c'est-à-dire cet amour de soi-même dont on est privé à cause des discours dominants et des pratiques dominantes dans la société. Donc ces pratiques de dignité ont d'abord un usage interne à la communauté, c'est-à-dire très concrètement apprendre à ses enfants à s'aimer eux-mêmes, à aimer la couleur de leur peau, à aimer leur histoire, à aimer leur famille et leur communauté. Et ensuite, dans un deuxième temps, être assez sûr d'eux-mêmes et sûr d'elles-mêmes, on parle aussi des filles, pour pouvoir aller se battre dans la société extérieure pour demander leurs droits. Et je pense que c'est tout à fait important, parce que sinon on aurait l'impression que ces pratiques corporelles de dignité et plus généralement ces luttes pour la reconnaissance ne sont que une demande de charité envers les Blancs. Mais c'est absolument pas le cas. C'est d'abord une lutte pour le pouvoir de... pour une redistribution des ressources et aussi pour le pouvoir de se regarder soi-même comme égal, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et on a du mal, peut-être, et moi, je suis voilà un historien, je suis un homme blanc, et j'ai essayé de comprendre cela. C'est quelque chose qui, quand on appartient à un groupe majoritaire, est difficile à comprendre. Mais ne pas s'aimer soi-même est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les autobiographies des Africains-Américains et des Africaines-Américaines de tous les milieux sociaux. Et dans tous les milieux sociaux africains-américains, il y a une lutte dans sa vie pour cette accession à la certitude d'avoir une valeur. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Voilà, c'est ce que je voulais préciser.
Merci. Aurélien?
Oui, je vais peut-être rebondir simplement sur la question de la journée, qui est celle soulevée par Christine de la dignité. Moi, je ne l'ai pas entendue comme disons, quelque chose qui s'obtiendrait par la conformité à des normes et donc moins l'aspect respectabilité, bien que le personnage dont je vous ai parlé a utilisé ces ressources-là pour, en effet, assurer une présence dans l'espace public, assurer une présence dans l'espace médiatique, mais que en réalité la dignité, s'il y a, disons, performance de dignité, puisque c'était la proposition, ce serait surtout, avant tout, dans la mesure où il met à un endroit qui est celui de l'instituteur, qui fait classe donc au public, qui fait classe à la société brésilienne, quelque chose qui est irréductiblement lié à l'expérience noire, et à l'expérience de l'esclavage, et à l'expérience de l'Afrique, enfin de l'héritage africain. Et ça, c'est ce procédé-là, en fait. Enfin, c'est cette performance-là qui est en jeu. Non pas tant les moyens pour y arriver, c'est-à-dire effectivement porter un chapeau, mettre une cravate, etc. Utiliser la presse, qui sont des... Et il me semble que... voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et effectivement, et ça renvoie à une situation... de poser un certain endroit symbolique de la société, mais aussi dans une expérience physique, hein, une expérience physique du carnaval, il faut se mettre en situation aussi que c'est, oui, c'est une expérience dont on est traversé, à cet endroit-là, quelque chose que le blanc ne peut pas connaître, et ne veut pas d'ailleurs, hein, à quoi il ne peut pas s'identifier, et donc, là, il y a quand même, oui, je crois, la production d'une situation d'égalité, même si elle est une fois dans l'année, etc. Voilà, donc je trouve qu'il ne faut pas, enfin, on verra sûrement tout à l'heure, que cette idée de dignité, elle est bien plus qu'une question de normes ou de respect des normes dominantes, donc forcément, et de conformité, justement.